Il est 22h, vous écoutez Europe 1. Et tout de suite, le journal de la nuit.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir, la vague Omicron est déjà là. Un cas de Covid sur 5 en France. Le virus accélère. Le gouvernement aussi vers une adoption plus rapide du pass vaccinal. Les Français se vaccinent. Plus de 20 millions de rappels administrés. Deux fois plus de non-vaccinés prennent le chemin des centres de vaccination. Reportage dans un instant. C'est assez rare pour être souligné. Les tarifs des assurances auto ont baissé cette année. Explication à suivre. Pour son premier déplacement à l'étranger, la candidate LR Valérie Pécresse imite Éric Zemmour. Elle choisit l'Arménie. Nous l'avons suivi. La météo, les gelées s'installent sur la majorité du pays. L'invité éco, nous serons avec le patron de Relais et Châteaux et on regardera les unes des journaux de demain matin.
Europe 1.
La France se prépare donc au déferlement d'Omicron à l'heure du réveillon. Sur notre territoire, 20% des cas de Covid sont déjà dus au variant Omicron. À Paris, c'est plus d'un cas sur trois. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, appelle à la responsabilité. Les chiffres deviennent très préoccupants.
Près de 73 000 cas positifs ont été détectés hier dans notre pays. Tout porte donc à montrer qu'après plusieurs semaines de ralentissement, l'épidémie repart à la hausse. C'est évidemment lié au développement de la vague Omicron dans notre pays, au développement de ce variant dont vous savez qu'il est particulièrement contagieux. Au niveau national, l'estimation actualisée ce soir de la circulation du variant Omicron dans notre pays fait état de 20% des cas positifs. Cette hausse semble être tirée par une augmentation très forte des contaminations chez les jeunes, et notamment chez les 20-40 ans. Je veux donc adresser un message extrêmement fort, notamment aux jeunes. Réduisez au maximum vos contacts. Si vous avez le moindre doute, testez-vous.
Testez-vous avant de rejoindre vos proches pour les fêtes. Isolez-vous en cas de symptômes. Le virus accélère, il est dopé par Omicron. Mais le gouvernement accélère aussi sur le calendrier, Louis Dragnel.
Oui, en fait, il veut aller aussi vite que le virus. D'ailleurs, ce sont également les mots de Gabriel Attal. En fait, Emmanuel Macron est réellement inquiet, d'où cette accélération. Alors, plus que jamais, l'exécutif continue de faire le pari du vaccin en augmentant de 2 millions le nombre de rendez-vous disponibles avant la fin de l'année. Accélération aussi pour la mise en place du passe vaccinal. Un projet de loi sera présenté en Conseil des ministres exceptionnel le 27 décembre, c'est-à-dire lundi prochain, à la place du 5 janvier, pour une adoption espérée avant la fin janvier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement, à travers Gabriel Attal, prépare les esprits, comme on dit, pour des mesures plus fortes à partir de début janvier. Mais rassurez-vous, aucun confinement ou couvre-feu n'est évoqué pour Noël, même si les contrôles de police seront renforcés. Ensuite, à partir de janvier, ce sera donc une autre affaire. Si un confinement est jugé impensable, l'idée d'un rétablissement du couvre-feu n'est plus écartée dans les couloirs de Matignon.
Oui, ce sera évidemment en fonction de l'évolution de la situation pendant cette période des fêtes. Soit le virus est contenu, soit les contaminations explosent, auquel cas les mesures radicales qu'on connaît déjà bien, malheureusement, redeviendraient inévitables. Une mesure envisagée par le gouvernement et qui fait un pas de côté cette fois, le pass sanitaire en entreprise, Gabriel Attal.
Vous savez que dans les discussions qui ont eu lieu hier avec Elisabeth Borne et les partenaires sociaux, il n'y a pas de consensus qui s'est dessiné autour de cette mesure. Pas de consensus non plus dans les discussions avec les groupes politiques, notamment pour des raisons de faisabilité opérationnelle. Et vous savez que quand nous choisissons des mesures, quand nous décidons de mettre en place des mesures, c'est parce que nous considérons qu'elles sont efficaces et qu'elles peuvent être mises en place de manière efficace pour lutter contre l'épidémie.
Voilà, on vient d'entendre à nouveau le porte-parole du gouvernement. Alors ça veut dire quoi, Louis Dragnel? Ça veut dire que le gouvernement laisse de côté le pass sanitaire en entreprise? Il ne va pas l'intégrer dans son projet de loi sur le pass vaccinal?
Oui, le gouvernement a décidé de l'écarter de son projet de loi, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y aura pas de contrôle de pass sanitaire en entreprise, puisque l'exécutif pourrait le faire adopter différemment en demandant à un député, par exemple, de proposer la mesure à travers un amendement, ce qui reviendrait à peu près au même résultat. De la même manière, Jean Castex a l'intention de demander aux responsables d'établissements recevant du public, les bars et les restaurants par exemple, de contrôler les identités de leurs clients pour lutter plus efficacement contre les fraudes. Et on ne sait pas encore si cette nouvelle mesure figurera dans le projet de loi ou si elle sera introduite par voie d'amendement.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Accélération du calendrier donc, la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal devrait être adoptée vers le 15 janvier. Et depuis que Jean Castex en a fait l'annonce, les prises de rendez-vous pour une première vaccination redécollent. 50 000 Français ont reçu ce mardi leur première injection, comme par exemple au centre de vaccination de Grasse dans les Alpes-Maritimes. Reportage Frédéric Michel.
Avec 500 personnes vaccinées chaque jour, 2 médecins, 7 infirmières et infirmiers, le centre de Grasse installé dans le palais des congrès de la ville est un des principaux lieux de vaccination dans les Alpes-Maritimes. Beaucoup sont là pour recevoir leur rappel vaccinal, mais il y a aussi de plus en plus de candidats à la première dose. Johan Tatin, le directeur du centre de vaccination à Grasse.
À peu près en moyenne une vingtaine par jour sur la semaine. Soit ce sont des gens qui se décident finalement de se faire vacciner quand même, pour leur travail, pour leur voyage, soit parce qu'ils ont eu une Covid longue. On a quelques récalcitrants qui viennent un petit peu à reculons dans les centres de vaccination, qui finissent par se laisser convaincre, et d'autres qui, au bout du compte, même avec le dialogue qui s'installe avec le médecin, renoncent à se faire vacciner. Alors on a eu un effet, effectivement, annonce du gouvernement sur les plus récalcitrants, les plus durs, ceux qui viennent avec un discours très dur dans le centre de vaccination, qui nous disent que c'est contraint et forcé, qu'ils ont été pris en otage, c'est inadmissible.
Sarah, 24 ans, a décidé de franchir le pas.
Bah forcément, comme beaucoup de personnes, j'avais peur, dans le sens où je me disais qu'il n'y avait peut-être pas assez de recul sur ce vaccin-là. C'est ça qui m'a fait un peu hésiter. Et puis bon, bah maintenant, je me dis que le vaccin, ça fait bientôt 2 ans. Il y a tellement de millions de personnes qui sont fait vacciner, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais un petit souci de santé à ce niveau-là. Et pour le travail, ça devenait obligatoire, vu que je travaille dans un milieu médical, donc je n'ai pas le choix.
Comme les plus de 65 ans, les personnes ayant finalement décidé de se faire vacciner pour la première fois sont prioritaires. Grâce, Frédéric Michel, Europe 1.
Ouais, la campagne de rappel vaccinal progresse vite. On a franchi ce mardi le cap des 20 millions de Français qui ont reçu leur piqûre de rappel avec 4 jours d'avance sur les objectifs. Se réjouit le gouvernement qui veut là encore accélérer. 2 millions de rendez-vous supplémentaires pour un rappel seront disponibles d'ici à la fin de l'année. L'Allemagne, elle aussi, serre la vis. Olaf Scholz, le nouveau chancelier, impose aux Allemands des mesures radicales pour les fêtes.
Pour ceux qui n'ont pas été complètement vaccinés, certaines restrictions seront nécessaires. Les futurs événements privés sont limités à un maximum de 10 personnes. Bien sûr, cela concerne tout particulièrement la Saint-Sylvestre. L'heure n'est donc plus aux fêtes et aux soirées en grand nombre. Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas comptabilisés dans cette limite de 10 personnes, comme pour l'an dernier. Ensuite, les clubs et discothèques seront fermés jusqu'à nouvel ordre, ce qui rendra plus difficile la propagation du virus. Par ailleurs, les regroupements publics ne sont plus autorisés. Cela s'applique notamment aux matchs de football. Enfin, pour soulager les hôpitaux, nous avons décidé que la vente des feux d'artifice sera interdite le soir de la Saint-Sylvestre. Et dans le même temps, il y aura une interdiction totale de se rassembler le soir du Nouvel An.
Voilà, Olaf Scholz, le chancelier qui donne donc ce nouveau tour de vis à l'Allemagne. Pas de raison de paniquer, nous sommes prêts, voilà ce qu'assure de son côté Joe Biden, en tout cas pour les Américains vaccinés, car nous ne sommes plus en mars 2020, rappelle le président américain, qui envisage d'ailleurs de lever les restrictions de voyage pesant sur 8 pays d'Afrique, y compris l'Afrique du Sud, où Omicron avait été identifié en premier, dans la mesure où le variant s'est désormais propagé au monde entier.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire.
Allez, une bonne nouvelle maintenant pour votre porte-monnaie, sans doute très sollicitée d'ailleurs à l'approche de Noël. Pour la première fois depuis 4 ans, la prime des assurances auto a baissé, moins 1,38% cette année en moyenne, ou si vous préférez, 9 euros de moins. Aurélien Fleureau, comment peut-on l'expliquer ?
Cela s'explique essentiellement par le fait qu'avec les différentes périodes de confinement et de couvre-feu, nous avons moins roulé ces derniers mois. Donc il y a eu moins d'accidents et moins de remboursements à effectuer par les assureurs qui ont pu répercuter une partie de leurs économies sur les tarifs. Et puis c'est aussi un secteur très concurrentiel. Ça aussi, ça a fait baisser les prix. Mais ce chiffre de 641 euros selon les données du comparateur d'assurance en ligne le lynx.fr, c'est donc une moyenne. Et ce sont les conducteurs bretons qui s'en sortent le mieux avec 533 euros. Alors que dans le haut des dépenses se trouve la région sud avec une pointe à 717 euros devant l'Île-de-France 708. Et je crains de finir sur une note un peu moins optimiste. Dès l'année prochaine, les prix risquent fort de repartir à la hausse d'environ 2 à 3% selon les spécialistes du secteur.
Merci Aurélien Fleureau. C'est donc, oui, en effet, juste une petite pause sur la facture. L'effet primaire est-il en train de s'éroder pour Valérie Pécresse? La candidate Les Républicains repère du terrain face à Emmanuel Macron. Dans un sondage Elab publié ce mardi, elle obtient 17% des intentions de vote au premier tour, juste devant Marine Le Pen à 16%, mais surtout loin derrière le chef de l'État qui remonte à 26%. Après Éric Zemmour, crédité quant à lui de 13% de ce sondage, Valérie Pécresse a choisi à son tour l'Arménie pour son premier déplacement de campagne à l'étranger. Vous suivez la candidate LR pour Europe 1, Alexandre Chauveau. Valérie Pécresse est allée à la rencontre des chrétiens d'Orient à l'approche de Noël.
Oui, même si la candidate revendique son soutien à l'Arménie de longue date, elle s'y est d'ailleurs rendue à deux reprises par le passé et réfute donc l'accusation de déplacement à but électoral. Aujourd'hui, Valérie Pécresse s'est livrée à une journée marathon entre hommages et rencontres avec les plus hautes instances du pays, dont le président de la République et le chef du culte chrétien arménien. Un moyen d'asseoir sa crédibilité de future femme d'État, veut croire son entourage, et d'alerter sur le sort réservé à l'Arménie par l'Azerbaïdjan.
Ce qui est arrivé à l'Arménie en novembre 2020 est un avertissement pour l'Europe tout entière. Et nous commettrions une faute politique en pensant que ce conflit ne nous concerne pas. Parce que l'histoire de l'Europe est riche d'enseignements concernant la montée de périls qu'on aurait sous-estimés.
Un avertissement qui fait écho à celui d'Éric Zemmour il y a 10 jours, qui parlait de guerre civilisationnelle entre une Arménie chrétienne et des pays voisins à majorité musulmane. Les chrétiens d'Orient devenus donc un enjeu électoral dans la campagne à droite, sujet défendu lors de la dernière présidentielle, notamment par François Fillon, et que Valérie Pécresse n'entend pas céder à Éric Zemmour.
Alexandre Chauveau à Erevan pour Europe 1. Une mère et sa fille ont vécu des heures d'enfer hier dans le quartier de la Bastille à Paris, séquestrés dans leur boutique par un forcené sous la menace d'une arme blanche. Le preneur d'otages s'est finalement rendu sans violence. Il avait d'abord libéré l'une des deux otages. Mère et fille sont indemnes, mais naturellement très choquées. La prise d'otage aura duré 17 heures au total. Le forcené est atteint de troubles psychiatriques. Alors comment négocier une issue pacifique dans une situation pareille? C'est justement toute l'expertise des hommes de la BRI. Écoutez leur patron, Simon Riondet, qui a coordonné l'opération.
C'est une négociation plutôt rare. Hein. Depuis 30 ans sur Paris, il n'y a pas une négociation aussi longue. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à cette sortie la plus saine possible, sans blesser ni d'un côté ni de l'autre. Une sortie de crise paisible est pour nous la meilleure des solutions. Que l'individu se rende sans qu'un coup de feu ait été tiré, sans que personne n'ait pris le risque d'être blessé. En fait, on va profiter de l'arrivée du préfet de police. En coordination avec lui, on va en discuter et on va proposer au préfet de police, qui est le représentant de l'État sur Paris, d'être le point de sortie qu'on va proposer à cette personne. Alors un point de sortie, c'est quoi? C'est donner à cette personne, lui tendre une perche et lui donner la possibilité en fait de sortir, je dirais, le plus dignement possible de la crise, sans qu'il ait l'impression d'être manipulé, sans qu'il se mette dans une situation de souffrance plus grande.
Le patron de la BRI, joint par William Molinier. On le sait, notre technologie nucléaire EPR a pris beaucoup de retard, mais elle peut enfin démarrer. Alors, pas sur le sol français, non. C'est en Finlande que l'EPR Made in France entre enfin en service dans une centrale nouvelle génération construite par Areva. Elle aurait dû être livrée en 2009. Elle arrive donc finalement avec 12 ans de retard, Maud Descamps.
Oui, après 16 ans de chantier, et donc 12 ans après la date de livraison prévue, la Finlande va enfin pouvoir profiter de son nouveau réacteur EPR, le plus puissant d'Europe, 1600 MW. La mise en service a été faite la nuit dernière. La production d'électricité se fera progressivement avec une mise en service normale au mois de juin prochain. Et c'est un moment historique car cette EPR a été le tout premier à avoir été commandé en Europe après la catastrophe de Tchernobyl. Mais les déboires s'étaient accumulés, ce qui a fortement taché l'image d'Areva, mais aussi celle de cette technologie EPR, symbole du nucléaire de demain. On sait que la France va se lancer dans la construction d'au moins 6 nouvelles centrales en utilisant justement cette technologie EPR. L'un d'eux est d'ailleurs en cours de construction à Flamanville dans la Manche, mais là aussi les retards s'accumulent en plus de 12 ans également. Cette mise en service en Finlande va donc être scrutée par de nombreux pays qui cherchent à remplacer leurs centrales à charbon par du nucléaire, des pays qui pourraient potentiellement passer commande à la France.
Maud Descamps, spécialiste des questions d'énergie à Europe 1. 3 supporters ultra-parisiens ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur les incidents qui ont conduit à la fin du match Paris-FC Olympique Lyonnais en Coupe de France de football vendredi dernier à Charletti à Paris. Des ultras du PSG ont été identifiés sur les vidéos des incidents. Une vente aux enchères très inhabituelle, on vous en parlait dès hier sur Europe 1. Le premier SMS de l'histoire envoyé en 1992 a été adjugé à plus de 130 000 euros frais inclus. L'acheteur est un Canadien qui travaille dans les hautes technologies. Il est donc propriétaire de ce premier texto du monde qui dit simplement « Merry Christmas, joyeux Noël ». Le temps pour ce mercredi, Marlène Duret, ce sera plus de soleil, mais aussi plus de gelée.
Oui, absolument. Alors, faut savoir que quand il y a moins de grisaille le matin, les températures baissent et on a évidemment plus de gelée, jusqu'à moins 6 degrés demain matin à Reims, à Nevers, à Mulhouse ou encore à Clermont-Ferrand. Même à Paris, Paris va connaître sa première gelée de la saison avec moins 2 degrés. Il faudra vraiment aller vers l'Aquitaine, la pointe bretonne ou la Méditerranée pour commencer à trouver des températures positives. Et puis dans l'après-midi, comptez 1 à 6 degrés sur la moitié nord. Bon, pas de dégel en Alsace, moins 1 à 0 degrés à peu près. Et puis en allant vers le sud, allez, c'est plutôt 6 à 9 vers la vallée du Rhône. Vers le sud-ouest, c'est 10 à 15. Mais même 20 localement, c'est pas si mal vers le piémont pyrénéen. Alors du côté du ciel, tout simple, gris autour de la Méditerranée, peut-être quelques pluies vers la Corse. Sur la côte d'Azur, on peut espérer du soleil dans l'après-midi. Partout ailleurs, c'est un ciel lumineux qui nous attend. Alors un petit peu plus laiteux au nord et au nord-ouest. Ça nous annonce déjà le temps qui va changer à partir de jeudi. Attention, visibilité réduite demain matin sur les routes. Des brouillards localement givrants. Le temps va se dégrader donc peu à peu par le nord-ouest pour votre soirée de réveillon. J'anticipe un tout petit peu.
Mais vous avez raison.
D'autres pluies vont remonter de Méditerranée. Donc il faut s'attendre à quelques chaussées mouillées de la vallée du Rhône à la Provence et à la Côte d'Azur. Donc notez bien, pas de froid ni de gel en pleine et aucun risque de verglas. Voilà, comme ça tout est dit pour ce réveillon de Noël.
Bon, c'est safe.
C'est un Noël doux et humide,
oui,
d'une manière générale. On a des pluies qui vont traverser le pays, en fait. Voilà.
Merci beaucoup, merci Marlène. On fera un nouveau point météo tout à l'heure avec vous à minuit. Dans un instant sur Europe 1, c'est Top à Wall Street avec Didier Hamot. À tout de suite. Top à Wall Street avec Didier Hamot. Bonsoir Didier.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com, Wall Street reprend du poil de la bête ce soir avec l'aide des valeurs technologiques.
Oui, Wall Street met fin à 3 séances de baisse consécutives sur fond de crainte sanitaire. Le Dow Jones reprend 1,6%, une nette reprise, 35 492 points. Et puis surtout le Nasdaq gagne 2,4%, un rebond à 15 341 points. Joe Biden, le président américain, vient de déclarer ce soir donc qu'il n'y aurait pas de reconfinement aux États-Unis. Ça a vraiment rassuré la communauté financière qui craignait évidemment le fameux lockdown. En revanche, 500 millions de tests gratuits seront envoyés dans les foyers américains à partir du mois de janvier pour tenter de maîtriser la nouvelle vague de Covid. Les valeurs de technologie emmènent le rebond ce soir avec Micron, rien à voir avec le variant. Micron gagne plus de 10%, $90.68. Le fabricant de puces a dépassé les prévisions de résultats dans un marché toujours en pénurie de semi-conducteurs. C'est vraiment la très forte hausse du jour. Micron, donc plus 10,5%. Toutes les valeurs de technologie suivent derrière avec Apple plus 1,9%, Microsoft plus 2,3%, Amazon plus 2%, Intel reprend 2,3% et Tesla regagne même plus de 4% à $938. Le pétrole aussi en profite, plus 3,3%. Il remonte à $71.50 le baril. Et Exxon gagne 2,2%. Le géant pétrolier repasse la barre des $60. C'est toujours aussi calme sur l'euro qui campe autour des 1,13 face au dollar.
La bourse de Paris a aussi repris de la hauteur, Didier, après son récent trou d'air.
Pareil, oui, plus 1,38%, même scénario, 6 965 points. Le CAC 40 qui refait largement son retard d'hier avec quelques achats à bon compte qui ont été notés dans un marché plutôt calme. Les valeurs de l'énergie sont remontées avec le pétrole. Technip plus 5,6%, CGG plus 4%, Total Energy plus 2,5%, 44,40€. Et puis le secteur aérien aussi se reprend après sa baisse. Airbus plus 4%, Air France KLM plus 4% aussi. Ça remonte pour les banques encore. BNP Paribas plus 4% à $58,86 après la cession pour plus de 16 milliards de dollars de ses activités de banque de détail aux États-Unis à la Banque Montréal. De quoi alimenter les ambitions de la BNP en Europe. Le titre en forte hausse ce soir de plus de 4%.
Alors, exception du jour, Eramet qui termine dans le rouge.
Oui, c'est décevant, moins 0,6%. Eramet ne profite pas de ce rebond, $69,90. Le groupe minier a été victime d'une fraude au sein de sa gestion de trésorerie au siège du groupe à Paris. L'impact de cette fraude est estimé autour de 45 millions d'euros avant assurance. Une plainte va être déposée par Eramet qui baisse ce soir de 0,6%. Ailleurs, ça remonte partout. Le DAX à Francfort reprend 1,3%. Bruxelles plus 1,5%. Milan plus 1,8%. Madrid plus 1,9%. Et le CAC 40 en hausse d'1,38%. 6 965 points.
Merci Didier Hamot.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'invité éco.
Et l'invité éco sur Europe 1, Philippe Gombert, président de Relais et Châteaux. Il était ce midi l'invité de La France Bouge. Il répond à Emmanuel Duteil et Elisabeth Assayag.
Bonjour Philippe Gombert.
Bonjour.
Vous êtes le président de Relais et Châteaux, près de 600 hôtels et restaurants dans le monde. Ça représente plus de 40 000 salariés. Vous êtes présent dans près de 60 pays. Philippe Gombert, comment se présente cette fin d'année pour Relais et Châteaux?
Alors, elle se présente plutôt bien dans l'ensemble, mais comme vous le dites, dans 60 pays, la situation ne peut pas être la même. Alors, on va peut-être parler de la France d'abord.
Oui.
En France, l'espoir, c'est tout de même la montagne. On n'a jamais eu autant de neige. Et la bonne nouvelle, c'est que finalement, ce virus, il y a une chose qu'il n'aime pas, c'est le confinement. On a besoin donc de se déconfiner, de profiter du grand air, de profiter aussi d'installations qui sont des installations de bien-être. Et nous avons la chance en France d'avoir des établissements qui sont ouverts actuellement, donc beaucoup à la neige, bien sûr, je le disais, à Méribel, à Megève, à la Clusaz. Et ils sont tous, c'est des établissements qui ont tous un spa de 1000 mètres carrés, donc ça permet de profiter aussi de l'agrément. Et puis nous en avons sur la côte, dans le midi, notamment en Lousteau de Beaumanière, le
Mac-Pierre. Est-ce que vous sentez d'une certaine manière, parce que ça revient beaucoup autour de cette table de La France Bouge avec nos différents invités, quel que soit le secteur presque, une vraie envie de se faire plaisir en ce moment, quand c'est possible, quand on a les moyens typiquement pour aller chez Relais Château. Mais est-ce que vous voyez ça aussi dans les réservations du moment?
Alors oui, bien sûr. Nous le voyons, il y a eu une période tout de même, nous sortons d'une période très longue au cours de laquelle beaucoup ont été obligés de se priver. Et on l'a vu beaucoup l'été dernier où nos clients dépensaient en moyenne plus que les années précédentes. Se faire plaisir, c'est effectivement aujourd'hui une nécessité.
C'est quoi dépenser plus en moyenne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire entrer plat dessert, on va mettre le petit déjeuner double dose, on va réserver des massages. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui qu'on ne faisait pas avant cette crise?
Alors on va peut-être par exemple s'offrir une bouteille un peu plus exceptionnelle. Et puis vous le dites très justement, les soins, on va s'occuper de soi parce qu'on a besoin de se ressourcer. Donc c'est vraiment tout ce qui est proposé. Et c'est ça, se faire plaisir, penser à soi.
Est-ce que vous profitez aussi de cette envie de revenir à une forme, comment je pourrais dire, à l'authentique, au patrimoine, parce que ce sont bien souvent chez vous de très belles tables, de très belles bâtisses, des beaux châteaux, comme le nom l'indique. Est-ce que vous profitez de cette tendance?
Oui, bien sûr. Un peu plus de la moitié de nos maisons sont situées dans des sites protégés par l'UNESCO au titre d'un patrimoine naturel exceptionnel. Donc, c'est en fait, Relais Château, c'est certainement aujourd'hui la meilleure manière de découvrir une région vraiment en profondeur, avec tout son environnement de producteurs, mais aussi de ses terroirs magnifiques.
Plus, ça, d'après vous, de Relais Château, vos clients viennent principalement pour ça, pour une belle table, une belle destination, mais pour profiter autour?
Oui, parce que nos clients, en fait, dans la journée, ils visitent. Il y a besoin. Il y a des promenades. C'est plus tout à fait la saison, bien sûr, de l'œnologie. Mais on voit bien en septembre, il y a un attrait considérable pour aller. Nous avons à peu près, sur l'ensemble de notre réseau, 80 maisons qui sont des producteurs de vin. Donc, visiter les vignobles, apprendre à connaître un lieu, c'est véritablement cela. Relais Château, c'est assez peu une chambre et un dîner, bien sûr un dîner exceptionnel, mais c'est aussi tout cet environnement.
Vous parlez de maisons, de demeures, ce ne sont pas des hôtels?
Alors, il y a... Pourquoi on parle d'une maison? Parce qu'on y est accueilli comme chez soi. C'est ça qui fait la différence dans Relais Château.
Souvent quand même, un petit peu en mieux.
Mais avec au moins ce sens de l'accueil, la proximité. Nous avons ce qu'on appelle, non pas de directeur, nous avons des maîtres de maison qui sont là pour s'occuper de vous. Et puis alors, il y a un deuxième point, c'est que nous avons développé un programme très intéressant, qui est un programme de villa. C'est-à-dire que nous sommes rendus compte qu'avec la crise, il y avait un besoin d'être un petit peu plus chez soi. Et donc les villas, ça correspond tout à fait à des souhaits de famille, de se retrouver ensemble.
Mais là c'est quoi? C'est des propriétaires qui ont de jolies demeures qui n'ouvrent d'habitude pas, où on peut réserver quelques jours dans l'année, un peu comme du Airbnb de luxe?
Alors je ne dirais pas du Airbnb de luxe, mais ce sont en fait des propriétaires de Relais Château qui ont construit, qui ont à côté de chez eux, des maisons.
Il y en a où des maisons comme ça ? C'est quoi ? C'est des maisons immenses de 200 mètres carrés ? Parce qu'il faut c'est des petites demeures
Une villa va à peu près de deux chambres à peu près cinq chambres. Ça peut être effectivement des grandes surfaces. L'idée, c'est de pouvoir vivre entre amis ou en famille et de bénéficier des services hôteliers à la carte.
Il y en a où des maisons comme ça ?
Alors nous en avons 600, en France nous en avons un peu plus d'une centaine dans toutes les régions.
C'est du coup pour répondre à quoi ? Une envie qu'on a peut-être nous tous de personnalisation de nos vacances, de ne pas être
mélangé avec du monde, parce qu'en ce moment on est en pleine crise sanitaire, on n'a pas forcément envie de voir du monde. Il y a aussi ça qui entre en jeu.
Alors c'est sûr que la villa vous assure de ce côté extrêmement privé. Mais également, ça peut être par exemple le fait de se dire, on part avec des enfants et on sait qu'on n'a pas envie que ça soit un souci. C'est-à-dire que nos enfants puissent gêner les autres qui sont là autour de la piscine en faisant du bruit, etc. Tandis qu'on voit très souvent des couples dont les enfants s'entendent très bien et qui partent en vacances ensemble avec leurs enfants et chacun profite au mieux de cet environnement familial et amical.
Comment on devient Relais Château ? Quels sont les critères indispensables pour pouvoir intégrer cette célèbre liste des relais et châteaux ?
Alors d'abord des critères de qualité, bien évidemment, des lieux uniques, une expérience, une table. Une table, c'est important, c'est au cœur de l'expérience de Relais Château. Bien sûr, nous avons le plus grand réseau de chefs étoilés au monde, mais une table simple, authentique, convient parfaitement pour entrer.
C'est eux qui viennent vous voir en majorité c'est souvent quand même vous qui dites « Tiens, celui-ci, il faudrait qu'on l'ait dans notre portefeuille, soit parce qu'on n'est pas très présent là, soit parce que c'est une telle institution qu'il faut qu'elle passe par chez nous. »
Alors, il y a un petit peu des deux. Une grande partie sont des candidatures spontanées, mais il est vrai, comme nous avons partout dans le monde ce que nous appelons des routes du bonheur, donc il peut y avoir à un moment donné, dans un circuit, un petit manque. Et on va effectivement approcher la maison pour voir si elle correspond, avec bien évidemment auparavant une inspection anonyme. Il y a toujours une inspection anonyme, technique, très précise, qui permet de considérer une candidature. Et puis ensuite, c'est un vote, parce que nous sommes une association, donc c'est un vote du conseil d'administration qui permet de rejoindre cette grande et belle famille des Relais et Châteaux.
Voilà, Philippe Gombert, invité de Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil dans La France Bouge. Merci à vous Elisabeth et Emmanuel. On vous retrouve demain de 13h à 14h pour La France Bouge sur Europe 1. Votre invité sera demain la patronne de Sephora pour l'Europe.
C'était l'invité éco avec BNP Paribas. Levée de fonds, entrée en bourse et développement international, choisissez la banque référente des entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Allez, un petit coup d'œil à vos quotidiens pour demain mercredi 22 décembre. La course à l'Élysée à la une de l'opinion, car ce sera une campagne covidentielle. Attention, jeu de mots, car oui, comme c'est parti, eh bien Omicron va perturber, c'est une certitude, la course à l'élection présidentielle. Le Figaro s'intéresse demain matin à toutes ces entreprises qui tirent profit de cette crise sanitaire entre les vaccins, les tests et les traitements. Le Covid bouleverse la santé, mais derrière Pfizer ou Moderna, eh bien ce sont des centaines d'entreprises qui se retrouvent en forte croissance. Les salaires, tiens, à la une de Libé, avec des luttes qui payent face à l'inflation et en l'absence d'un coup de pouce du SMIC, les employés d'entreprises peu habitués aux grèves se mobilisent pour obtenir des augmentations. Alors qu'on découvre Keanu Reeves également à la une de Libération, visiblement emballé par Matrix 4, qui sera visible dès demain au ciné. Pourquoi Matrix 4 nous a mis la tête à l'envers ? C'est à lire demain dans Libération. 22h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. On accueille Sabine Marin pour la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Alexandre.
Masqué, je vous reconnais à peine.
Oh, quand même les yeux, si.
Votre voix, c'est votre voix.
Ah, c'est ma voix, vous
c'est votre voix qui me guide dans la nuit.
D'accord, ben j'espère qu'elle vous guidera jusqu'à moi à 23. À 23h. Non, je ne sais plus. Oui, 23h, c'est ça, pour les prochaines
heures. Sans faute.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.